J'en savais rien, d'accord? Ce sont les dés qui décident.
C'est à cause de lui que tu voulais pas jouer?
Toi non plus, tu ne voulais pas jouer? Tu as bonne mine avec ton « on a commencé un jeu il y a 26 ans et maintenant on va le finir ».
Armé de mitraillettes, de ballons ou de bonbons, l'adolescent francilien est accro aux écrans. Ce n'est pas un scoop.
Oui, c'est à ce côté loup-garou, on ferme les yeux, le Wendigo capture un scoop.
94% des collégiens jouent au moins une fois par semaine.
Ce sera la grande mode.
Se fabriquer un héros qui ressemble à ce qu'on aimerait être.
Ça me permet un peu de m'évader.
Mais du coup, vous jouez toujours au même jeu?
Non, non, mais je sais pas jouer à vos trucs de toute façon.
Engager ce héros dans des aventures, combattre des monstres qui peuvent évoquer des personnages, des puissances paternelles. Maternelle.
Tu as perdu! Tu as perdu! Tu comprends? Tu ne joues plus!
Bonjour tout le monde et bienvenue sur Aléa. C'est Régis et je suis avec Robin.
Bonjour tout le monde. Le week-end dernier à Montpellier, c'était la première édition de la Philo Board Jam, un concours de création de jeux de plateau en 48 heures avec de la philosophie et des barbecues. L'événement était porté par deux associations montpelliéraines, Sudpixel, un groupement de professionnels du secteur ludique, et les ateliers ludosophiques, un laboratoire d'expérimentation portant sur les liens entre jeu et philosophie. Ainsi, 13 participants et participantes ont été accueillis pendant tout le week-end dans les locaux de La Tendresse, une coopérative culturelle aux abords de la ville.
L'objectif était, pour ces participants, de concevoir puis de construire en 48 heures un jeu de plateau. Ou en tout cas un prototype de jeu de plateau, en respectant certaines contraintes et certaines thématiques imposées par les organisateurs. Parmi les contraintes distribuées, certaines portaient sur l'univers graphique du jeu, ou sur son matériel, d'autres sur ses mécaniques ludiques, ou sur ce qu'on appelle plus généralement le game design, et les dernières sur des aspects plus philosophiques, c'est-à-dire sur le message porté par le jeu, sur son contenu ou sur son sens. À cela s'ajoutait enfin un thème plus général, visant à inspirer les créateurs et créatrices réunis, un thème philosophique tenant en deux mots, choix et décision.
Il s'agissait donc de concevoir des jeux de plateau qui interrogent ces deux notions. Par exemple, au sein du jeu lui-même, en opposant stratégie et hasard, mécanique aléatoire et mécanique déterminée, pour ainsi mettre en évidence auprès des joueurs différents modes de décision, ou au contraire une absence de décision. Mais également des jeux qui interrogent ces notions dans la vraie vie, à propos des choix politiques par exemple, en traitant des modes de scrutin, de la pression sociale, des comportements irrationnels, des sentiers de dépendance, etc. Bref, il fallait concevoir un jeu qui amenait à se poser tout un tas de questions sur ces notions, voire même à expérimenter via le jeu différentes formes de choix.
Le prix de la Philo Board Jam a finalement récompensé dimanche un jeu développé par René-Louis Chour, Tristan Itier et Melvin Le Tondeur. Un jeu portant sur un titre aussi bien étrange que prometteur, le début de la fin.
L'aventure commence lorsque des astronomes observent dans le ciel, aux abords de Pluton, une petite tache sombre, un trou noir apparu soudainement pendant la nuit, absorbant la lumière et avec elle petit à petit les différentes planètes du système solaire. Ainsi, la fin du monde est annoncée. La Terre dérivant vers ce trou béant sera progressivement plongée dans le noir. Les joueurs et les joueuses incarnent alors des personnalités politiques, des chefs de gouvernement, chargés de prendre de dernières décisions, de faire voter des lois pour entrer dans la postérité avant que l'humanité ne s'éteigne complètement.
Le début de la fin est donc un jeu narratif. Chaque tour commence par la lecture d'une carte événement qui précise un peu plus la nature et les conséquences du trou noir sur la planète et sur ses habitants. À tour de rôle, on est alors amené à prendre la parole pour proposer une action politique en réponse à cet événement. Un vote permet ensuite de décider de la proposition retenue, et celle-ci est alors intégrée dans le récit. Progressivement, donc, de proposition en proposition, une histoire est racontée, une histoire décrivant les dernières tentatives d'une humanité condamnée.
À cela s'ajoute une mécanique de débat assez intéressante. On doit, lors de nos discours, utiliser certains mots indiqués sur des cartes que l'on tient en main. Par exemple, médias, éducation, chômage, international, etc. Notre discours politique est donc en partie orienté par le jeu. Mais plus intéressant encore, les cartes que l'on pioche, et donc les mots que l'on utilise, dépendent également de notre proximité avec le trou noir. Plus la fin est proche, plus les mots à placer dans notre discours deviennent menaçants ou absurdes. Complot, mouton, bombe, confetti, etc. Ainsi, les propositions, peu à peu, dérivent vers l'irrationnel. Si le sort de l'humanité est certain, puisqu'il n'y a pas d'échappatoire à la chute dans le noir, ces dernières gesticulations politiques sont de plus en plus hasardeuses, de plus en plus vides de sens.
Parmi les contraintes choisies par cette équipe, il y en avait une qui proposait de s'inspirer du mouvement situationniste. ce mouvement politique d'ultra-gauche apparu dans les années 50 et dont le plus célèbre représentant était Guy Debord. Sur le plan artistique, l'international situationniste visait également à détruire la frontière arbitraire qui existe entre un objet d'art et son public. Par le détournement, par l'absurde, il s'agissait de tourner en ridicule l'art élitiste ou spectaculaire et de montrer que la pratique artistique pouvait au contraire être une activité quotidienne, s'exprimant dans les situations, dans des événements sociaux, festifs ou politiques.
Le début de la fin, en proposant de s'exercer au débat et à la langue de bois, dénonce la futilité des prises de décision politique face au péril qui nous attend. Mais plus que ça, le jeu nous amène également à nous questionner sur ce qu'est véritablement un jeu de plateau. Là où l'on s'attend habituellement à trouver un objectif clair, des règles précises avec des conditions de victoire et donc un gagnant, le début de la fin propose plutôt une situation de jeu. Une situation relativement absurde et vaine, puisque la fin de la partie sera toujours la même, et pourtant une situation captivante, où tout le monde se prend au jeu pour incarner un rôle et faire avancer un débat stérile.
En d'autres termes, l'intérêt du jeu ne vient pas tant de cet objet matériel avec ses règles et sa logique, mais de la situation sociale dans laquelle on est plongé, de l'événement auquel on participe, auquel on contribue, même si celui-ci n'a pas vraiment de sens.
Ah oui, mais j'en savais rien, d'accord ? Ce sont les dés qui décident.
C'est à cause de lui que tu voulais pas jouer ?
Toi non plus, tu ne voulais pas jouer ? Tu as bonne mine avec ton « on a commencé un jeu il y a 26 ans et maintenant on va le finir ».
Armé de mitraillettes, de ballons ou de bonbons, l'adolescent francilien est accro aux écrans. Ce n'est pas un scoop.
Oui, c'est à ce côté loup-garou, on ferme les yeux, le Wendigo capture un scoop.
94% des collégiens jouent au moins une fois par semaine.
Ce sera la grande mode.
Se fabriquer un héros qui ressemble à ce qu'on aimerait être.
Ça me permet un peu de m'évader.
Mais du coup, vous jouez toujours au même jeu ?
Non, mais je sais pas jouer à vos trucs de toute façon.
Engager ce héros dans des aventures, combattre des monstres qui peuvent évoquer des personnages, des puissances paternelles. Maternelle.
Tu as perdu ! Tu as perdu ! Tu comprends ? Tu ne joues plus !